Voici la voix en or, Luc Lavoie.
Je pensais pas réentendre ce jingle-là en 2020. On s'était fait nos au revoir.
Nos adieux.
En décembre.
Eh oui,
mais comment on se retrouve, Luc? Salut, j'espère que tu vas bien.
Ça va bien, toi?
Oui, ça va bien, ça va bien. Même si la discussion qu'on s'apprête à avoir est une discussion très sérieuse. Même foncièrement triste. Parce que je voulais qu'on revienne ensemble. Je voulais profiter de ton expertise, mais je veux qu'on revienne ensemble sur ce Boeing 737 d'Ukrainian Airlines là, qui a vraisemblablement été abattu par un missile de défense iranien, quoique les Iraniens continuent de nier que c'est le bon scénario. Avion qui transportait, je le rappelle, 176 personnes, dont 63 Canadiens, des adultes, mais aussi des enfants. Luc, c'est absolument tragique ce qui est arrivé.
Ah, absolument tragique, sans aucun doute. Et le fait que l'Iran démente avec véhémence aujourd'hui, ça veut rien dire, parce que je te rappellerai que quand, en 1988, le cuirassé américain Vincennes a abattu un appareil d'Iran Air, mm-hmm. ils ont démenti pendant 2-3 jours. Quand la Korean Airlines a vu un de ses avions être abattu par la chasse soviétique, ils ont démenti pendant des semaines. Alors, bon, moi, j'y vois pas grand-chose. Quand tu dis que les preuves semblent absolument convaincantes et béton...
Ben, c'est surtout que la majorité des autres pays s'entendent pour dire le scénario est crédible. Il y a pas mal juste l'Iran qui dit non. Ben, il y a l'Ukraine aussi qui dit on peut pas encore confirmer que c'est bel et bien ça, mais ça tend vers le scénario.
Ben, l'Ukraine veut être sûre de garder ses canaux ouverts pour être capable d'aller mener son enquête. C'est surtout ça. Mais moi, j'ai assisté à une scène de télévision en direct, comme on en voit rarement, avant-hier. Il y avait l'ancien commandant suprême des forces de l'OTAN et qui est un amiral américain maintenant à la retraite, était invité par MSNBC, le réseau de nouvelles qui appartient à NBC, à commenter les événements qui se passaient en Iran en général. Et là, il y avait une image qui accompagnait cette intervention de l'amiral. Et lui, il regardait l'image pendant qu'il parlait aussi. Et puis, tout à coup, il a dit « Oups, arrêtez l'image, revenez un peu en arrière. » Vraiment, c'était en direct. Puis là, ils l'ont ramené, puis il a dit « Ça, là, ce que vous voyez là, puis il me montrait avec ses doigts. Vous voyez, là, c'est des traces d'un missile de type de celui qui a été utilisé. Parce que ce missile-là avait... Écoute, j'en revenais pas. Puis là, ben, immédiatement, l'amiral s'est mis à dire « Oh, peut-être que je suis trop avancé, patatatata. »
Ah ouais, c'est ça.
Mais son réflexe professionnel était directement là. On voyait un morceau de carlingue de l'avion, mm-hmm. puis on voyait comme des trous, quasiment comme s'il y avait eu des coups de feu dedans.
Exact.
Et là, il s'est mis à essayer de dire « Ben là, je peux pas affirmer ça, patati, patata. » Mais il s'avère que le missile employé, qui est de fabrication russe, est un missile qui, avant de toucher sa cible, le bombarde en quelque sorte de boules de métal qui servent à... Je ne sais pas pourquoi exactement, mais c'est clair qu'il y avait eu ce bombardement-là. Donc, des preuves, on n'en a plus vraiment besoin. Il y a également des satellites d'espionnage qui ont pris des photos. Il y a également la fameuse vidéo qui circule et que le New York Times affirme pouvoir... confirmé comme étant réel, où tu vois ce qui ressemble à un avion qui vole, puis tout à coup, quelque chose, puis bang, là, il n'y a plus rien. Alors
que l'Iran, de leur côté, leur défense, ou en tout cas, ce qui soulève comme point, c'est qu'ils disent « Ah, mais on a des témoins oculaires, il y en a qui étaient au sol, il y en a d'autres qui étaient dans un autre avion au-dessus, qui auraient vu qu'il y avait un incendie à l'intérieur. »
Ouais.
C'est plutôt faible, là, tu sais.
Je les crois pas du tout. Je crois plutôt à la thèse de l'accident, par contre, bien qu'il y a certains cyniques qui vont peut-être s'avérer avoir raison, j'espère que non, qui pensent que ça a été fait délibérément. Tu sais, ils ont envoyé des missiles sur des bases où se trouvaient des soldats américains. Ils ont averti les bases 3 heures avant d'envoyer les missiles. Ils ont blessé personne, ils ont tué personne. C'était un show de boucan pour consommation domestique. Il fallait qu'ils montrent aux Iraniens qu'ils allaient agir, qu'ils agissaient effectivement. Et là, tu dis, ben, ouais, hein, ils ont fait leur show de boucan puis c'est fini. Est-ce que ça se pourrait que quelqu'un ait dit, ouais, si on frappe sur des Américains, c'est clair qu'ils vont contre-attaquer avec une force inouïe. Mais si on frappe sur les meilleurs amis des Américains, c'est-à-dire le Canada, qui fait partie aussi de la coalition en Irak, peut-être que là, ça va être notre façon de leur envoyer un message. Je le sais pas, j'ose espérer, je crois encore qu'il s'agit d'un accident qui s'est produit parce que, après avoir envoyé les missiles vers le territoire irakien, ils ont mis, probablement mis, tous leurs aéroports et les systèmes anti-aériens qui sont là en action. Ils ont poussé la switch, le bang. Et c'est des systèmes automatiques qui, s'ils voient arriver un missile de croisière ou un avion de combat ou quelque chose, ils partent pour le détruire. Et là, paraît-il que ce qui se serait produit, ce serait que il y a eu une faiblesse dans la technologie, puis qu'ils ont pris cet avion-là pour un missile ou pour un avion de combat. Alors c'est extrêmement dramatique, et ce qui rend la chose encore plus difficile pour le Canada, c'est qu'en 2012, le gouvernement Harper avait rompu les relations diplomatiques avec l'Iran, fermé la présence consulaire canadienne. Il n'y a plus d'ambassadeurs là. Il n'y a plus d'Iraniens au pays non plus.
Je comprenais que, parce qu'à un moment on a vu passer là, sur les fils de presse que François-Philippe Champagne avait été en communication avec son homologue iranien. Mm-hmm. Et là, je comprenais qu'il a fallu, puisqu'il n'y a aucune présence consulaire en Iran, il a fallu qu'il passe par l'ambassade italienne.
Oui, c'est l'ambassade d'Italie à l'heure actuelle.
Mais comment tu veux négocier quoi que ce soit? Comment tu veux prendre quelconque arrangement ou juste avoir un dialogue s'il n'y a personne?
C'est un des très, très gros problèmes auxquels on fait face à l'heure actuelle. C'est un cas criant où tu as besoin d'une présence consulaire. Il faut quand même rapatrier des corps, identifier des victimes, tout ce travail-là qui doit être fait. On n'a personne au sol. Là, on vient d'envoyer une équipe assez importante qui vont être installée à Istanbul en attendant que les Iraniens disent « OK, vous pouvez les amener ». Mais pas de relations diplomatiques, rupture comme ça a été fait en 2012. Personnellement, je vois toujours ça comme une stupidité. Tu comprends? Parce que quand on a des relations diplomatiques, c'est pas parce qu'on est d'accord avec le régime, c'est pas parce qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est parce qu'on a des intérêts partout dans le monde. Entre autres intérêts, on est là, avec nos taxes, on en paye pas mal, là, pour protéger nos citoyens où qu'ils se trouvent. Alors, Trudeau avait promis en 2015 qu'il allait reprendre les relations diplomatiques avec l'Iran. Il l'a pas encore fait, là, il doit s'en mordre les doigts, parce que c'est plus bien le temps, là. S'il arrivait puis il disait « on reprend les relations diplomatiques », ça aurait l'air un peu cocombe, n'est-ce pas? Alors là, comment ils vont se débrouiller avec tout ça? Ça doit être un casse-tête au ministère des Affaires étrangères à Ottawa, ayant déjà travaillé là, je peux vous le dire, ça doit pédaler par à peu près. Comment tu fais? T'as pas de canaux de communication. En plus, les Iraniens veulent pas donner les boîtes noires ou même accès aux boîtes noires ou même accès à quoi que ce soit concernant les boîtes noires à quiconque. Alors, comment on va faire pour savoir ce qui s'est vraiment passé? Première question. Et là-dessus, je pense que le gouvernement a raison de dire on exige des réponses. Mais deuxième affaire, c'est qu'on n'a pas, on n'a pas de moyens dans ce type de choses-là. On n'a pas des forces armées qui sont capables d'aller leur donner une petite claque sur la gueule. On n'a pas rien de ces joujoux, si on peut les appeler ainsi, ces infernales joujoux de l'armée américaine. On n'a pas ça.
Les moyens économiques.
Mais on n'a presque pas de moyens économiques.
Le genre de sanctions qu'on peut, c'est ça.
Parce qu'on n'a pas de contrat là-bas. On n'a pas de firmes canadiennes que je connaisse qui ont des gros contrats là-bas. On n'a pas non plus, on n'achète pas de pétrole iranien. On ne fait pas affaire avec ce régime-là. Écoute, c'est un énorme casse-tête. Énorme casse-tête. Et c'est une tragédie aussi.
Et Luc, j'aimerais t'entendre un peu sur la réaction de Justin Trudeau, parce qu'il doit être dans une position un peu délicate, justement, en raison de tout ce que tu as mentionné précédemment. Puis je sais pas comment un chef d'État doit réagir dans des circonstances comme celle-là.
D'abord, cellule de crise, puis il semble en avoir assemblé une hier quand il s'est présenté devant les caméras. Il y avait le chef d'état-major de l'armée avec lui, puis le sous-ministre des Affaires étrangères qui était avec lui. Il doit y avoir une équipe présentement hyper active à Ottawa qui doit développer autant de contacts et de communications que possible, compte tenu de ce que je viens de dire, mm-hmm. Il n'y a pas grand-chose d'autre qu'il peut faire. Il ne peut pas...
Mais c'est ça, il est un peu dépourvu, c'est une patate chaude.
Là. Il est complètement dépourvu. On est complètement dépourvu. De là, je rappelle cette idée, les gens se demandent pourquoi on dépense tant d'argent pour avoir ces ambassades-là dedans. Ben, il m'a dit, regarde ce qui se passe, là. Tu vas comprendre pourquoi on a besoin d'une ambassade dans un pays comme ça. Si on avait une ambassade, on aurait déjà des canaux de communication, on connaîtrait des personnages importants du régime, on saurait le numéro de téléphone à signaler pour avoir une réponse à l'autre bout. Dans le cas de la conversation entre François-Philippe Champagne et son homologue iranien, ministre des Affaires étrangères, ce que je comprends, parce qu'on en apprend un petit peu à chaque jour, c'est qu'ils ont dû passer le Canada par la Russie. Ils ont dû demander à la Russie de dire, écoute, comment on ferait pour y parler? Il faut qu'on y parle. Et là, ce sont les Russes qui ont dit, OK, on va essayer de vous arranger ça. Parce que les Russes, évidemment, ont signé un accord militaire et économique de commerce avec l'Iran. Alors, ils ont beaucoup d'influence dans ce pays-là. Et c'est grâce à eux, paraît-il, qu'on a réussi à organiser cette conversation qui aurait été, dit-on, assez constructive et... Bon, les Iraniens, ils vont faire leur blablabla sur la place publique, mais les Iraniens, contrairement à l'image qu'on en a souvent, sont connus. D'abord, ce sont pas des Arabes. C'est pas ni la même ethnie, ni la même langue, ni la même religion, en général. Ce sont des chiites. Et ils sont connus pour être un peuple particulièrement rationnel, froid, calculateur. Pas des énervés, puis tout ça. Alors, ils vont faire un paquet de blablabla sur la place publique. Mais en même temps, ils sont parlables. Je veux dire, c'est du monde intelligent, là.
Mais en coupant les ponts, ben, puis pour ça, tu disais, c'est une idiotie de fermer les, de couper les relations diplomatiques. Ben, le résultat.
On l'a, là.
Le résultat, on l'a. C'est que t'es pas capable de négocier. T'es pas capable de t'entendre sur rien. Puis le pire des scénarios qui peut arriver dans ce temps-là, c'est le dernier, mais c'est de loin le pire. C'est une guerre.
Oui, c'est une guerre. Mais nous, on n'a pas les moyens de se lancer dans une guerre. Si une guerre était déclenchée, elle sera déclenchée par les Américains ou par je ne sais trop qui au Moyen-Orient, mais à l'heure actuelle, j'en vois pas. Alors, Trudeau, il fait ce qu'il peut. Son ministre Champagne fait ce qu'il peut. On est dans une étrange situation. Tu mentionnais qu'il y avait 63 Canadiens à bord de l'avion. Donc, un tiers du nombre de passagers. Mais plus que ça, sur les 160 quelques passagers, il y en avait 138 qui s'en allaient à destination du Canada.
Ouais, c'est ça.
C'est un vol qui était en quelque sorte un vol intermédiaire qui amenait les gens vers le Canada. C'est pour ça qu'il y a des victimes qui vivaient à Montréal, à Toronto, à Vancouver, partout. Et ce qui est assez tragique aussi, c'est que les gens qui sont morts dans cette tragédie-là, c'était des gens de très haut niveau d'éducation, professeurs d'université, ingénieurs. Alors, c'est une perte énorme, énorme.
Est-ce que, en terminant, ça peut paraître comme un détail, mais en même temps, c'est intéressant de le savoir. Est-ce que l'Iran avait les moyens de savoir, s'il avait voulu le savoir, la nature des passagers qui étaient dans l'avion? Parce qu'on se demandait, on se questionnait sur bon la thèse accidentelle ou volontaire de l'Iran, on ne sait pas encore, mais est-ce que l'Iran a des moyens de savoir c'est qui les gens à bord de l'avion, s'il avait décidé de frapper pour s'en prendre, par exemple, à l'allié principal des Américains?
Bien sûr, et très facilement. Je veux dire, il y a des contrôles douaniers, tu n'embarques pas dans l'avion comme ça, comme si de rien n'était. Il y a un manifeste de l'avion. Non, ça, il n'y a aucun doute. Alors, dans ce sens-là, c'est un peu difficile de croire qu'il l'aurait fait par exprès. Ça vient contrecarrer cette thèse-là, parce que pourquoi est-ce qu'il déciderait de descendre les leurs? C'est pas clair et net, cette affaire-là.
Puis même si, bon, ce qui se passe sur Internet est toujours hors de contrôle de toute façon, mais j'ai bien de la misère, moi, avec... Je sais pas toi, Luc, mais j'ai bien de la misère avec l'espèce de... Il y a une espèce de vague de où on rit un peu de Troisième Guerre mondiale, des images humoristiques de Trump et compagnie. Puis je me dis tout le temps, puis que ce soit en provenance du Canada, des États-Unis ou autre, il y a un seul avion qui a été abattu, là. Puis cet avion-là, c'est des familles décimées, c'est des enfants, c'est des...
Ouais, ben,
une guerre, c'est ça, à plus grande échelle, là. C'est
mais
ça.
Mais Paul Raphaël, les gens, tu vois, on est dans la nouvelle génération de ceux qui n'ont pas connu vraiment la guerre.
C'est
la dernière fois, là, ça fait maintenant 75-80 ans, peut-être la guerre de Corée, qui, elle, fait déjà 70 ans, pas loin. Alors, il y a peu de gens qui ont ce souvenir que la guerre, et moi, je le répète, parce que, bon, je suis un passionné d'histoire et tout ça, la guerre, C'est la pire des situations. La guerre, ça veut dire destruction, mort tragique, du sang, des orphelins. C'est la pire situation qui existe sur Terre, c'est la guerre. Et faire des blagues à propos de la guerre, faire des blagues à propos de Trump, c'est dur de pas en faire, parce que c'est dans son cas où ben on fait des blagues ou ben on pleure. Là, t'sais, c'est que... Mais t'as raison, j'ai vu ça aussi sur Facebook. Puis je dis, mais mon Dieu Seigneur. Et c'est une génération de monde qui... Ça, c'est une opinion personnelle, là, mais qui ont grandi avec des jeux vidéo inspirés de la guerre. Fait qu'ils regardent ça, puis tout, hey, c'est cool, c'est une vraie, celle-là, tu sais. Mais je veux dire, c'est... Oublions-le pas, là, moi, je suis pas un anti-militariste, je suis même associé aux Forces armées canadiennes en tant que colonel honoraire d'un régiment. Mais la guerre, c'est la pire des situations. La guerre, c'est la misère, c'est la destruction. On veut pas la guerre. Et c'est pour ça que c'est bien beau les jeux à Trump, parce qu'il veut qu'on arrête de parler de sa destitution. Hein? C'est bien beau ces jeux-là, mais ça mène où ces jeux-là?
Ouais, puis faut pas oublier aussi que dans le fond, parce que tu disais je suis pas antimilitariste, au contraire, faut pas oublier qu'une armée... Ça sert pas juste à faire la guerre non plus.
Ben non, ça sert à maintenir la paix.
Ça sert à faire la paix, mais oui.
Mais c'est une force de dissuasion aussi, puis c'est une façon d'intervenir dans diverses zones du monde sans être des agresseurs. Mais je répète, la guerre, parlez-en même à nos soldats qui sont allés en Afghanistan, là, il y en a beaucoup à l'écoute, là, ils sont en région de Québec, là, ils vont vous le dire, c'est quoi la guerre. Quand ils partent là, et waouh, on va aller vivre une grande expérience, parce que ça fait longtemps qu'on s'entraîne. Quand ils reviennent de là, comprends-tu, le syndrome post-traumatique, j'en ai connu tellement, mais j'en connais encore qui en sont encore victimes. Je te le dis, c'est... On faut pas faire de blagues avec ça, puis c'est pourquoi des imbéciles comme Trump, on n'a pas besoin de ça. Il n'y avait pas besoin de descendre Soleimani cette semaine. Il n'y avait pas besoin de faire ça. Est-ce que c'est un bon gars, Soleimani? Non. Mais l'idée n'est pas là, là. L'idée, c'est je veux-tu la guerre? Si tu la veux, je veux... Bon. Enfin. Et en plus, c'est de faire porter à Soleimani le fardeau de tous les soldats américains qui sont morts dans cette zone du monde. Je veux dire, c'est comme de dire que le chef d'état-major de l'armée canadienne, tous les gens qui ont été abattus pendant notre présence en Afghanistan, donc il serait un criminel lui aussi. Tu sais, c'est une façon tellement tordue de penser.
Il y a un auditeur qui marque un point juste, qui m'écrit à Tarel, puis il dit « La prochaine guerre, là, entre guillemets, là, la prochaine guerre qui pourrait être plus totale, elle sera pas bien ben longue avec les armes qu'on a aujourd'hui, puis elle va en faire du dommage, là, tu sais. »
Ben, si on pense en termes nucléaires, elle va pas seulement faire du dommage, elle va peut-être détruire la civilisation.
La civilisation, c'est ça.
C'est clairement ça.
Bon, écoute, on aurait pu parler de sujets plus pépé, un peu plus le fun.
Pépons-nous!
On pourrait parler du Canadien, non?
Non, troisième lien.
Il y a le troisième lien. Commençons, peux-tu commencer? Donne-moi une petite shot de troisième lien.
Les gars, on va parler du Canadien, je sais.
Non, mais donne-moi une petite shot sur le troisième lien. Ou ben non, tu veux-tu qu'on parle de ta loi favorite, la laïcité, la petite loi raciste? Là,
je suis quand même content, malgré tout nos désaccords, Luc. Je suis content qu'on ait pu se parler à l'occasion de cette dernière émission de Deux Hommes en Or.
Mais non, mais c'est pas quoi? Troisième lien, t'as rien à dire. Jonathan, rien à dire. C'est tout ça, là?
Non, c'est pas que j'ai rien à dire, c'est que je veux pas t'entendre là-dessus.
Le troisième lien. Ah! On me baïonne!
On te censure!
On me censure! Je m'attendais pas à vivre ça sur les ondes d'une station Cogeco. Franchement, je vais me plaindre. Je vais faire une plainte. En tout cas.
T'appelleras notre boss. Hey, merci, Luc.
Salut, Luc.
Salut,
à la prochaine,
bye-bye.
Quand même.
Troisième lien. Merci, Luc. À la prochaine. Bye-bye.